Le zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité de l'entrepreneuriat.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Cowork, la radio, pour ce tout nouveau numéro du Zoom de l'info, dans lequel j'ai le plaisir de recevoir Karine Nago. Bonjour Karine.
Bonjour Kenza.
Vous allez bien ?
Très bien, merci.
Merci d'être avec nous. Vous êtes merci entrepreneur et coach en prise de parole. D'ailleurs, coach en prise de parole, c'est très précis. Vous êtes avec nous pour nous présenter votre ouvrage. Vous êtes bon à l'oral, mais vous ne le savez pas, édité chez Alizio. Alors d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire un ouvrage sur le sujet ? Car je crois que vous êtes vous-même une ancienne glossophobe. Expliquez-nous.
Exactement. Alors, à l'origine de cet ouvrage, il y a une phobie. C'est la phobie de la prise de parole en public. Hein. L'idée, c'est que quand on ne peut pas dépasser une peur, on vit ce qu'on appelle une phobie. Et moi, eh bien, j'ai eu une phobie de la prise de parole en public. Alors, ça remonte à quelques années maintenant.
Oui.
Et j'ai réalisé, à l'occasion d'une prise de fonction, je devais prendre la parole en public, que j'avais une peur insurmontable. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai planté la petite graine de ce livre et de mon métier aujourd'hui de coach et de formatrice en prise de parole en public.
Et d'ailleurs, vous travaillez dans un secteur d'activité où il y avait beaucoup de communication. Je crois que les gens, beaucoup de rencontres.
Oui, absolument. Oui, c'est-à-dire que je travaillais, alors c'est peut-être pas un hasard, j'avais choisi un métier de la communication.
Incroyable.
Et mon métier, c'est de mettre en valeur les autres à l'époque déjà.
Oui.
Mais évidemment, quand on est dans la communication, on doit soi-même être en première ligne à certains moments. Donc c'est peut-être pas un hasard, je l'ai choisi. Peut-être pour relever un défi, mais ça s'est fait de manière tout à fait inconsciente. Mmh. En tout cas, au moment où j'ai été confrontée à cette phobie, j'étais complètement démunie. Et je pense encore une fois que c'est à ce moment-là que j'ai eu envie de créer des outils. Alors à ce moment-là, j'ai simplement, ça a été en effet comme si j'avais planté une petite graine. Il a fallu des années avant que je puisse créer cette méthode. Mais je pense que j'ai été le premier cobaye
et oui, évidemment.
Des outils que j'ai créés petit à petit et qui ont donné ce livre aujourd'hui.
Vous gardez de mauvais souvenirs de cette période ? Est-ce que ça a généré en vous ou créé des traumatismes ?
Alors, traumatisme, c'est peut-être un mot un peu fort.
Oui.
En tout cas, je pense que pour beaucoup de personnes, ça va parler. Mmh. C'est-à-dire que c'est une vraie souffrance au quotidien. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on est amené dans sa vie professionnelle à prendre la parole, mais ça peut être simplement dans une réunion, dans un one-to-one. Évidemment, quand on prend la parole dans une conférence, mais ça peut être aussi quand on va à une réunion de parents d'élèves ou une réunion de syndic de copropriétaires, etc. Et donc, je pense que ça peut être une vraie souffrance au quotidien qui pollue la vie. Et les gens que j'accompagne me le disent. À un moment donné, l'anxiété est tellement présente que finalement, on ne pense plus qu'à ça. Et donc, pour répondre à votre question, moi, les souvenirs que j'ai gardés, c'est en effet d'être un peu obsédée par ça et de me dire « Ah tiens, demain, je vais avoir telle réunion, j'ai telle prise de parole » et avec cette sensation que ça ne va pas être possible, que je ne vais pas pouvoir l'affronter. Et donc, oui, ces mauvais souvenirs-là, bien entendu, sont encore présents, même si, bien entendu...
C'est de l'histoire ancienne aujourd'hui.
C'est de l'histoire ancienne.
On est d'accord. Alors, ça concerne différents profils, hein, j'imagine. C'est pas parce qu'on est grand entrepreneur ou grand patron de société qu'on n'est pas justement parfois confronté face à ses peurs. On est d'accord, c'est pas parce qu'on est charismatique et qu'on a un poste à responsabilité qu'on est automatiquement fait pour parler en public. Hein.
Non, c'est pas une question de fonction, c'est pas une question de statut et c'est même pas une question de contexte. Parce que, encore une fois, la prise de parole, prendre la parole, s'exprimer à l'oral, on le fait tous et toute la journée, finalement. Et les personnes qui ont besoin, qui expriment ce besoin d'être formées à l'oral, ne sont pas que des grands patrons. Hein, ça peut être même une mère de famille qui va avoir à s'exprimer dans une association, par exemple.
Oui, bien sûr,
ça peut être quelqu'un qui va faire un discours, j'explique dans le livre,
lors du mariage.
Voilà, en tant que témoin de mariage. Et voilà, et finalement, ça peut être des moments forts, des moments importants. Et finalement, on peut passer complètement à côté et c'est dommage. Donc, ce n'est pas une question de statut, ce n'est pas une question de fonction.
Alors, côté chiffres, moi, j'ai été très étonnée parce que la peur de parler en public concernerait environ 60% de la population. Quand je vous ai donné ce chiffre en dehors de cette antenne, vous m'avez dit non, mais c'est beaucoup plus aujourd'hui. Donc, ça a augmenté ou finalement,
alors,
ça a toujours été très important ?
Il y a différentes études qui ont été menées. Une des plus connues est une étude américaine et je crois que le chiffre, alors bon, c'est évidemment calcable, ça, on peut l'appliquer sûrement à la population française, le chiffre c'était 75% de la population souffre, alors ça va de la simple anxiété à la vraie phobie. on dit, suivant les sources, il y a entre 6 et 8 personnes sur 10 qui ont peur de prendre la parole en public. Alors, tout le monde n'a pas une phobie, évidemment, heureusement, mais ça peut être une anxiété qui va prendre quand même de l'importance et qui, assez bizarrement, s'accentue avec l'âge. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui viennent me voir.
Alors qu'on pourrait penser le contraire.
Exactement, avec l'expérience, la sagesse ou la confiance. Voilà. Bien au contraire, moi j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent c'est bizarre, quand j'étais étudiant, j'ai le souvenir, bon voilà, j'aimais pas ça. Et puis aujourd'hui, j'ai 40, j'ai 50 ans et c'est pire et ça devient vraiment un problème.
Incroyable.
Et donc, j'ai l'impression qu'avec le temps, alors pour des raisons que peut-être psychologiques, le fait de se culpabiliser en se disant justement, ben voilà, avec l'âge, peut-être qu'à un moment donné, je vais y arriver. Peut-être que tout ça alimente le manque de confiance en soi et justement la peur de...
Donc c'est un vrai phénomène de société, hein, vous confirmez. Hein.
Oui, oui, je pense. Et mais c'est pas nouveau. Je pense que c'est peut-être on l'a un peu plus rendu public, on l'a un peu plus médiatisé et heureusement, mais c'est vrai que je pense que ça existe depuis la nuit des temps.
Hein, ce problème. Alors ce qui est terrible, c'est que je crois que depuis le confinement, ça s'est totalement accentué, encore une fois, avec la nécessité d'être visible via les visioconférences. Ça, vous l'avez ressenti encore plus ?
Oui, parce que c'est un peu un piège. On se dit, je vais faire une visioconférence, donc je suis chez moi, je suis à mon bureau ou dans ma chambre à coucher avec un petit coin bureau, etc. Et donc, je suis en terrain connu. Et finalement, c'est un piège parce que si on n'existe pas en visioconférence, si on ne prend pas sa place, eh bien, on est absent des radars.
On est transparent, effectivement.
On est transparent.
Et on nous oublie.
Oui. Alors, c'est peut-être confortable, mais finalement, ça alimente cette envie, finalement, d'évitement, de ne pas trop se montrer et de ne pas prendre la parole. Et donc, je pense que les visioconférences, en tout cas, ont accentué l'idée que si on ne prend pas la parole, on n'existe pas, d'une certaine façon. Alors, c'est un petit peu caricatural, mais il faut vraiment, en visioconférence, s'imposer. Et le faire d'une manière efficace, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Vous pensez qu'on peut tous sortir de ce cercle infernal ou de ces peurs sans trop de difficultés ?
Oui, parce que moi, je suis une ancienne glossophobe, donc si j'y suis arrivée, je pense que tout le monde peut y arriver, parce que je pense que je reviens
vraiment
très loin. Je reviens vraiment de super loin. Oui, oui. Donc, je pense que tout le monde peut y arriver. Et je pense que le point de départ, et ça, c'est vraiment un message que j'ai envie de faire passer, c'est rester soi-même. C'est-à-dire que le problème que ont les personnes qui veulent justement dépasser cette peur et qui peut-être ne sautent pas le pas, c'est qu'elles sont focalisées sur « il faut que je me corrige ». Voilà, je parle trop doucement, je fais trop de gestes, je suis trop comme ci, je suis trop comme ça,
j'ai pas assez
d'autorité.
Oui, on se met trop la pression, effectivement.
Ben, c'est surtout que plutôt que de mettre son énergie à essayer de se changer, il vaut mieux essayer de s'enraciner dans ce qui va bien. Et du coup, là, on met en place un cercle vertueux, justement, plutôt que d'essayer de se dire « j'y arriverai pas » et finalement, je laisse tomber.
Alors effectivement, vous dites qu'il ne faut pas se mettre la pression, mais vous dites que le nerf de la guerre, c'est quand même de trouver les mots justes pour convaincre.
Oui. Alors, pas se mettre la pression, c'est pas arrêter de s'autocritiquer. En revanche, il faut préparer. Et je pense que là, effectivement, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que si moi, je viens à une interview en me disant « je verrai bien », je risque peut-être pas de tout rater, mais de passer un petit peu à côté des choses. Et c'est ça. Et donc, il faut réfléchir à ce qu'on a envie de dire. Et ce que j'explique dans le livre, c'est si on ne sait pas où on veut aller, on a peu de chances d'y arriver.
C'est vrai.
Et donc, si je suis venue en Uber, si je monte dans un Uber en disant je vais à Paris, ben, y a peu de chances qu'ils viennent justement ici, dans le studio de radio, et donc que j'arrive à l'heure, et voilà.
Donc même si on a confiance en soi, il faut quand même préparer son discours et trouver les mots justes pour convaincre son auditoire.
Il faut se préparer.
Alors, vous proposez au travers de votre livre une méthode révolutionnaire pour s'affirmer en public. Quelles sont les grandes étapes de cette méthode,
Karine? Alors, il y a 4 étapes. J'ai choisi la symbolique des cartes, du carré d'as, parce que je trouvais que c'était une manière aussi de dédramatiser. Il faut que ce soit un jeu, il faut que ce soit un challenge et pas une souffrance. Il faut arrêter d'en faire une souffrance. Donc, il y a 4 étapes parce qu'il y a 4 as dans un carré d'as. La première étape, c'est d'identifier ses atouts. Donc, je donne les clés pour le faire, pour justement, c'est ce que j'appelle l'as de cœur, s'enraciner dans ses atouts. En avoir conscience, et leur donner toute leur place. La deuxième étape, c'est d'essayer d'analyser, et le fameux « si on ne sait pas où on veut aller, on a peu de chances d'y arriver », c'est ça, c'est cette étape-là. C'est savoir ce que j'attends d'une prise de parole, ce que j'ai envie de dire et surtout qui je vais avoir en face de moi.
Se structurer en quelque sorte.
Et structurer, oui. Voilà, et structurer. Donc, il ne faut pas que ce soit une usine à gaz. Donc, je donne les clés justement pour que ce soit le plus simple et le plus fluide possible,
oui.
Avec des petits tips, voilà, qui permettent d'aller assez
quelques
vite.
Quelques
petites astuces. La troisième étape, c'est de ciseler les mots les plus importants qu'on veut faire passer. C'est ce que j'appelle les messages clés. Bon, ça, c'est bien connu des communicants, je ne l'ai pas inventé. Mais là, on va se poser sur cette troisième étape pour essayer de trouver vraiment les mots justes et de leur donner un ordre de priorité. Et puis, il y a une dernière étape qui est l'as de carreau, hein, puisqu'il y a as de cœur, as de pique, as de trèfle et carreau.
Ouais.
C'est se projeter. C'est essayer d'imaginer une version cauchemar et une version rêve de sa prise de parole. Et ça va servir à créer ses antidotes.
Ah oui, visualiser en quelque sorte.
Et faire un peu, voilà, visualiser.
Ah oui.
Et puis aussi de trouver ses priorités. Donc voilà, les quatre étapes pour ce
Il y a un exercice que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, c'est l'exercice de Dolores, ce fameux paillette,
Vigno.
Les petites paillettes, c'est ça ?
La pluie de paillettes, oui.
Alors expliquez-nous rapidement, parce que c'est facile à faire, ça.
Ça fait beaucoup rire, mais les gens que j'accompagne, parce que c'est très girly,
oui,
et donc du coup, ça les marque. Bah, l'idée, c'est qu'on s'appuie effectivement sur des techniques de respiration, de douyin, le douyin, hein, qui est une méthode issue de la médecine chinoise. Et là, l'idée, c'est que quand vous allez prendre la parole, avant, vous allez vous poser et vous allez imaginer que vous avez un monticule de paillettes au creux du ventre. Et vous allez faire une inspiration très profonde pour calmer donc la pression, justement, la pression artérielle. Et vous allez imaginer que cette pluie de paillettes remonte. Et puis, à l'expiration, vous allez imaginer que c'est une pluie de paillettes qui redescend. Et vous allez refaire ça 3-4 fois.
Déjà, l'image est jolie. Donc,
voilà, et donc, on la visualise. Et puis surtout, elle marque l'esprit. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir calmer le jeu, s'ancrer un peu plus et puis respirer calmement.
Les gens que vous accompagnez justement dans cette fameuse prise de parole et cette prise de conscience aussi de ses capacités, est-ce que ça prend combien de temps entre le moment où vous les accompagnez et le moment où ils se sentent mieux, ils se sentent plutôt à l'aise dans ce genre d'exercice?
Alors, c'est assez rapide parce que je propose deux séances de 3h30 en deux fois, hein, avec quelques jours d'écart. On a bien sûr d'abord une première séance d'une heure et demie pour vraiment échanger ensemble, savoir quel besoin, où en est la personne. Et puis, il y a une séance après la prise de parole. Et là, je fournis un livrable avec des conseils sur mesure pour que la personne ait une sorte de petit de fiche très pratique pour les appliquer au quotidien. Et la formation, je la fais vraiment sur mesure.
Avec des exercices,
j'imagine. Avec des exercices. Et alors, j'insiste beaucoup sur le fait, effectivement, il faut s'entraîner.
Oui.
Parce que c'est comme quand on apprend à jouer d'un instrument de musique ou d'un sport. Il ne faut pas juste en faire une fois, il faut aussi faire des gammes, s'entraîner et plus on s'entraîne et plus on a confiance en soi et plus on peut acquérir les compétences pour être efficace à l'oral.
Limite demander de l'aide aussi à ses gens autour de soi.
Demander à son entourage, à ses collaborateurs, à chaque fois qu'on prend la parole, je donne des petites fiches à remplir pour justement pouvoir mesurer l'évolution et progresser dans le temps et pas s'arrêter à une seule fois.
Donc vous l'avez compris, hein, si vous voulez devenir un orateur hors pair, eh bien, il suffit de vous procurer le livre, le premier livre, c'est un premier. Hein,
c'est un premier livre.
Bon,
oui,
je pense qu'il y en aura d'autres derrière, sans aucun doute. Karine Nago, vous êtes bon à l'oral, mais vous ne le savez pas, la méthode révolutionnaire pour s'affirmer en public, je le montre d'ailleurs à la caméra. C'est un livre efficace, facile à lire en plus, et la méthode est plutôt sympathique et plutôt facile à mettre en place, en fait. Hein, on peut dire
Hein. Et puis, encore une fois, j'ai envie que ce soit un peu ludique et de dédramatiser la prise de parole en public.
Très bien. Merci beaucoup Karine Nago d'avoir été avec nous.
Kenza.
Entrepreneur et coach en prise de parole en public. Merci d'avoir été notre invitée.
Merci.
Le Zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité de l'entrepreneuriat, une émission à réécouter et télécharger sur coworklaradio.com, l'application mobile Cowork La Radio et tous les agrégateurs de podcasts.